Radio Campus Lille, 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette 70e phase B de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, Thomas.
Bonsoir.
Et François à la technique.
Bonsoir.
Pas comme d'habitude.
Aujourd'hui, on a quelques invités avec nous, on va parler de hacking.
Waouh,
vaste sujet.
On a jusque minuit ce soir.
Ouais, à peu près, environ.
Tant pis pour les émissions d'après.
Donc on va parler hacking, hacker, on va essayer de démystifier tout ça et répondre à quelques idées reçues notamment.
Voilà, on a réussi. Il y a des gens qui étaient motivés pour venir parler de ça. On avait notre spécialiste hack et nouvelles technologies bizarres, obscures. On a François qui est là ce soir.
Bonsoir.
Voilà. Et on a nos grands amis de Toys R Noise qui sont venus aussi ce soir nous expliquer quel bruit ça fait le hacking, quel bruit du hack, la musique du hack. Donc bonsoir et bienvenue à vous deux. Voilà.
Belle entrée en matière.
Voilà, c'est la dernière émission de la saison, donc je vous garantis pas qu'on va réussir à tenir jusqu'au bout, mais ça va le faire.
Ouais, ça va le faire.
Ça va le faire. Alors voilà, donc la technique est en train de me lâcher aussi tout doucement. Il fait 48 degrés dans le studio de campus. Voilà, tout se bat en cacahuète.
Matériel s'installe,
le matériel
tranquillement.
S'installe et tout. Il y a des canards, je vous dis, canards sur le studio, il y a des Teletubbies, il y a un Flurby qui est avec son casque sur les oreilles. Bref, donc vous avez tous entendu parler de hackers, vous avez tous vu au magnifique journal de France 2 ou dans les séries télé, les hackers, c'est ces gens que, enfin, en tout cas la télé, on représente à coder des trucs, ils tapent comme une vitesse démesurée sur un clavier, parfois même à deux sur un clavier, déjà vu, à taper pour essayer de contrer une attaque ou faire des virus. Alors souvent il y a des trucs en 3D qui apparaissent à l'écran, les mecs, plus ils tapent vite, plus il y a d'objets en 3D qui apparaissent à l'écran, etc. On dirait plus une espèce de Tetris psychopathique. On est au regret de vous dire que c'est pas ça dans la vie. Les hackers, c'est pas vraiment ça, et en plus, manque de bol, c'est pas que des méchants qui essayent de détruire le monde ou qui essayent de s'immiscer dans le réseau de la centrale électrique pour la faire sauter, ouvrir toutes les portes.
Essentiellement pas que des méchants.
Ouais, il y en a pas beaucoup en fait, il y en a quasiment pas en fait, c'est ça qui est dommage. Parce que les hackers sont pas en plus que derrière leur clavier, ça c'est pas de bol. Ils sont aussi et avant tout et historiquement derrière leur fer à souder. Voilà. Donc le hacker, c'est un terme qui est assez vieux. Comme d'habitude à l'écho des gnous, on va encore vous dire, on parle de nouvelles technologies, mais on parle que de vieux bazar. Ça devient une manie. Le terme de hacking remonte encore une fois aux années 50. Voilà, donc c'est pas une nouveauté terrible. Décidément, dans l'informatique, il n'y a rien de neuf en fait. Il faudrait peut-être qu'on s'y mette à faire un truc.
On a détourné le terme hacker. À la base, hacker, ça veut dire qu'il construit un hack. Et pas dans le sens où nous on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens sécurité informatique.
Piratage de système informatique.
Ouais.
Ça, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui, c'est on pirate des systèmes informatiques. Un hacker est obligatoirement un pirate de systèmes informatiques. Point. C'est un petit peu restrictif parce que c'est pas vrai.
En sachant que c'est aussi la définition qui est implantée aujourd'hui, mais qui est en train de changer, mais dans les médias ou
voilà,
au JT de 20h.
C'est ça qui nous embête, c'est ce qu'on essaie. On va essayer de faire le tour ce soir pour vous dire qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et la technologie, voilà. Donc tout a commencé autour de petits trains électriques au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology dans les années 50, où il y avait des férus de maquettes de trains électriques. Alors vous dites ouais, c'est super, donc les gens à la fac, ils jouent au train, des clubs, ils ont un niveau de malade, etc. Ils faisaient des grandes maquettes de train et tout. C'est vraiment, les maquettes se complexifiaient de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus, et ça devenait compliqué à gérer avec des petits boutons, etc. Du coup, il y a l'arrivée des ordinateurs. Dans les années 50, c'était des ordinateurs un peu réservés justement aux hautes études et aux chercheurs, etc. Et ben, ils se sont dit, ben non, on va essayer d'en faire un pour nous et de fabriquer ou de l'utiliser pour gérer nos réseaux de trains, pour trouver des solutions pour les réseaux de trains. Et du coup, ils ont détourné l'utilisation des réseaux de la fac, des ordinateurs de la fac, pour mettre en place leur système de gestion de trains, etc. Et voilà, le premier hack était né. Sans compter qu'à côté de ça, il a fallu développer toutes les petites cartes électroniques, enfin les grosses cartes à l'époque électroniques, pour mettre au milieu de tout ça, pour réussir à faire marcher un réseau de train complet, autonome, et le plus réaliste possible, tout seul. Le hack était né, c'est-à-dire bidouiller un système existant pour en faire autre chose que ce dont à quoi il est destiné. C'est à peu près le début de l'histoire.
C'est aussi comprendre. D'abord, voilà. Quand ils ont réceptionné les premiers ordinateurs au MIT, oui. Ils se sont dit qu'est-ce que c'était que ces boîtes à savon électroniques, bourrées d'électronique, et est-ce que ça pouvait remplacer les commutateurs électroniques qui envahissaient les salles. Et donc, ils se sont intéressés, ils ont d'abord essayé de comprendre, et après, ils ont adapté l'outil à leur passion.
Ouais, parce que effectivement à l'époque les ordinateurs c'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas juste un bouton power on, etc. Il fallait recevoir des énormes machines etc. Et du coup on recevait ça, en gros c'était bah débrouillez-vous quoi. Vous avez commandé une machine, c'est que vous êtes censé savoir à quoi elle sert. Et donc les gens ils prenaient déjà l'objet pour ce qu'il était, c'est-à-dire voilà une machine à faire ce qu'on voulait quoi. C'était pas plus compliqué que ça. Ah. J'essaie de hacker mon propre matériel parce que je n'arrive pas à récupérer mes notes que pour une fois je n'ai pas stocké sur ma machine.
Donc je vais meubler.
Vas-y, merci. Merci.
Ce qui est intéressant au MIT, c'est qu'il y avait aussi au départ plutôt des électroniciens et bientôt en fait il y a eu un... Ça s'est scindé en fait avec ceux qui se spécialisaient plutôt dans l'informatique et ceux qui se spécialisaient sur l'électronique. Et ceux qui voulaient accéder en fait à l'informatique pour faire marcher tous les petits trains électriques. Alors il faut s'imaginer aussi que c'est pas simplement les petits trains électriques qu'on a connus dans notre enfance, c'était vraiment quelque chose d'assez énorme. On commençait à vouloir accéder aux ordinateurs, mais l'informatique à cette époque était très centralisée, très sécurisée. Il fallait beaucoup de passe-droits aussi pour pouvoir accéder aux ordinateurs. Et bon, en fait, ils essayaient d'y accéder la nuit ou d'y accéder en essayant, on va dire, de marchander avec ceux qui étaient considérés comme les grands gardiens de l'ordinateur, parce que bon, c'était un ordinateur avec plusieurs postes, mais c'était en fait très compliqué d'y accéder.
Ouais, c'est ça. Donc il y avait un début d'une des formes de hacking qu'on trouve, enfin, qui s'est toujours perpétué au début, qui est le social engineering. Donc c'est une forme de hacking parce qu'en fait vous essayez de profiter d'un système existant, d'une administration existante et des failles qu'elle peut représenter en disant bah voilà. En gros, je te laisse une bière et t'oublies les clés sur la porte et puis voilà. Ou alors, dans une discussion, on entend quelqu'un qui parle du prénom machin, on dit ah voilà, le code a changé, etc. Et on entend le code qui passe en clair, on regarde au-dessus d'un épaule et puis voilà.
Inversement aussi, ils pensaient que justement, comme ils voulaient l'utiliser le soir par exemple, où les ordinateurs n'étaient pas utilisés parce que le temps en fait ordinateur était très cher, le temps de calcul, ils trouvaient que c'était aussi un peu dommage de laisser ces ordinateurs non utilisés, sous-utilisés, et ils trouvaient pas normal qu'ils ne puissent pas les utiliser en temps de repos par rapport aux grandes... aux grands travaux qui pouvaient se passer pendant la journée aussi, par exemple.
Voilà, c'est le personnage du hacker a toujours déjà à l'époque cette fâcheuse tendance à se dire que on le prend pour un débile et il est de toute façon généralement un peu plus intelligent que la moyenne, ou en tout cas que son entourage. Et c'est assez facile d'estimer que les machines qui sont là sont mises en place par des gens qui s'y connaissent pas, et ou des espèces de grosses administrations, et du coup voilà, c'est pas des techniciens, c'est pas des gens qui s'y connaissent qui mettent en place des choses comme ça, ou alors à des escients voilà très très carrés machin, comme tu dis,
très hiérarchisé,
c'est très hiérarchisé,
très administratif, hein.
Vous avez le droit de 9h à midi, de 14h à 18h, le reste du temps on éteint les machines, on les laisse tourner à vide. C'est dommage. Donc quand on arrive en disant ah non, on peut s'en servir la nuit, les gens disent vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez faire la nuit, etc., vous n'avez pas besoin, etc. Si, c'est pour faire tourner notre train. Donc voilà, donc ça c'est le on va dire les prémices du le point d'amorce du système. Les hackers ont toujours existé. Si on prend des gens juste qui essayent de comprendre comment ça marche, je pense qu'on peut facilement classifier tous les grands scientifiques, même il y a
des inventeurs,
tous les grands inventeurs, on peut les qualifier de hackers. Des gens qui essayent de comprendre. Si on prend tous les Galilée, etc. Qui essayait de faire des choses, De Vinci par exemple, qui essayait de faire des choses en comprenant. Donc il essaye, il bidouille, il prend ce qui existe, il regarde ce qu'il y a dans la nature, comment ça marche, je le fais pareil, comment ils font, je vais essayer de faire pareil, voire mieux. Bon, bien souvent ça marche pas, du coup qu'est-ce qui a pas marché, et puis ainsi de suite, quoi. C'est comprendre pour améliorer ou pour voilà, créer quelque chose.
Alors on peut aussi descendre au bricoleur du dimanche. C'est-à-dire que si on oublie le mot hack, on peut le définir aussi le premier mot qui vient en français, on va dire bidouilleur, mais aussi l'aspect bricoleur, sans l'aspect péjoratif, de celui qui se débrouille pour atteindre en fait un objectif, on va dire pratique. Le hack, comme tu l'as déterminé, apparaît au MIT parce qu'en fait le mot apparaît. Mais sinon, bon, comme tu l'as dit, il existe depuis le début de l'humanité, on va dire. Quand il faut chercher, trouver une solution ou résoudre un problème, c'est du hacking. Par contre, le terme hack vient étymologiquement, on va dire, du fait de couper en tranches. Donc c'est simplement le bruit de la hache contre le tronc. Et donc ça veut dire je vais découper jusqu'à la plus petite unité possible un matériel pour essayer de comprendre comment il fonctionne, premièrement. Deuxièmement, pour essayer après de le réassembler, pourquoi pas le réparer, et surtout aussi de le détourner de sa fonction principale, et en fait en créer des usages qui n'ont pas forcément aussi été prévus par le concepteur d'origine.
Voilà, c'est ça, c'est de prendre l'objet tel qu'il est. Je pense que nos amis de Toys R Us ne diront pas le contraire. C'est-à-dire que vous, votre spécialité, c'est allez-y, vous présenter en 2 secondes ou 3, allez. Non ?
Si, ouais. Mais en fait c'est ça, ouais, parfait enchaînement en fait. Des constructeurs, donc on a des marques à tir l'arigot pour faire des joujoux plus ou moins abrutissants, ou des instruments de musique plus ou moins intelligents. Et, donc là devant nous, vous pouvez pas voir les auditeurs, mais on a des jouets avec 5 boutons. On appuie sur un petit nounours, ça fait tel son, on appuie sur une note, ça fait telle musique, et bon, au bout d'une semaine, le gosse, il en a marre, il devient complètement débile, ses parents, ils pètent les plombs, et voilà. Donc en fait, il sert plus à rien, on le retrouve dans tous les Emmaüs, dans les poubelles, dans toutes les rues. Et ce qui se passe, c'est que y a un potentiel pour le détourner, et pour en faire, nous, on s'en sert pour faire de la musique. Concrètement, on s'est dit un jour, tiens, on va faire un groupe à base de récup, donc de musique expérimentale, et avec plein d'influences, etc. Voilà, on va pas non plus passer 2 heures là-dessus, mais en gros tout ce qu'on trouve, on se dit tiens, ce truc débile, il peut être intéressant. Voilà, donc
ouais, parce que intéressant, parce que justement quand on l'ouvre, c'est-à-dire qu'on fait péter, on dévisse juste les 3 vis qu'il y a derrière,
voilà, c'est ça.
On se rend compte que dedans il y a des capteurs, il y a des petites puces qui font du son, il y a des petits haut-parleurs,
des condensateurs, des choses. Et en fait, on va au hasard. Nous, on n'avait pas de formation en électronique. On savait que c'était possible. Bon, il y a une histoire aussi dans le circuit de bending qui arrive depuis les premiers jeux électroniques aux États-Unis dans les années 60. Et voilà, donc on savait que c'était possible, on avait déjà entendu des exemples, on s'est dit tiens on va le faire, et en fait c'est super simple. Et depuis on l'a fait pour notre projet à nous qui s'appelle Toys R Noise, et on a vite été sollicité pour le proposer en atelier en fait avec des gens. Donc c'est ouvert à tout public, c'est à la portée de tout le monde comme c'était à notre portée à nous. Et c'est rigolo de faire de la récup. Enfin, déjà, c'est marrant, ça réunit des gens. Et ça surprend, en fait, les gens. S'attendent pas à ce qu'on puisse brancher ce jouet-là et l'inclure dans un...
Dans un concert. Ouais.
Dans un... Comment on appelle ça, un instrumentarium.
D'accord.
Et donc, c'est marrant. C'est rigolo d'avoir un jouet un peu débile dans un orchestre, quoi.
Un peu débile.
Et un peu débile comme
il
ça,
plus,
à première
vue. Il est plus, du coup.
À première vue, mais il est plus intelligent, il a plus de fonctions après. Il est moins débile après qu'on soit passé.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vois, ça reprend la première définition, on va dire, qu'on vient d'évoquer. Et en fait, tu rajoutes aussi des définitions qui sont importantes dans le hack, qui sont premièrement la passion. Oui. J'irais, en fait, en général, c'est quand on est passionné de quelque chose, on va pouvoir dépenser des heures. Et ça, couplé avec ce que tu définis aussi comme un peu un autodidacte, c'est quelqu'un qui va apprendre par lui-même. Donc déjà, au départ, même si tu n'avais pas de formation électronique, tu vas commencer à t'intéresser, à savoir comment ça marche. La stratégie de l'échec aussi, parce que je pense que des jouets ont été sacrifiés sur l'autel de la créativité. Et l'autre aussi...
Ressuscité,
voilà, avec d'autres fonctions.
C'est ça qui est beau. C'est presque mystique, en fait.
Exactement. Et aussi, je dirais, une part importante qu'on retrouve aussi, c'est que il y a la notion énormément qui est de créativité. Comme tu, Sébastien, disais tout à l'heure, c'était des créateurs et pas des destructeurs. En général, les médias passent les messages dans les années 80-90 que le hacking et destructeurs, des gens qui connaissent des systèmes et qui sont là pour les détruire ou pour faire des choses malveillantes. Bon, on appelle ça des criminels. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les grands hackers ou les grands inventeurs sont toujours été dépassionnés et en fait arrivés à la technique, passer après à l'art. C'est-à-dire qu'on considérait que ce qu'ils faisaient était artistique. Et maintenant, dans beaucoup de milieux artistiques, musiciens, graphistes, etc., il y a énormément de passionnés hackers qui, en fait, détournent la technique pour leur art, enfin, au service de leur art, et créent, en fait, des nouvelles formes artistiques. Bon, après, on pourrait enchaîner sur la culture libre. Mais bon...
Je vous conseille, si vous voyez, juste avant une pause musicale, François nous fait signe, ouais, on est en retard. Si vous avez l'occasion de voir les installations des Toys R Us qu'on a vu plusieurs fois, il y a une espèce de scénographie complète qui est faite avec des machines qui tournent, des vieux tourne-disques, des Barbies qui chantent et des caméras qui tournent. C'est carrément du délire. Et pour revenir sur l'universalité, c'est pareil, vous faites des ateliers avec des enfants très jeunes. Des enfants très jeunes qui viennent aux ateliers. Voilà, ça voulait dire oui.
Les ressusciter.
Donc Florby a parlé. Donc voilà, on va passer un peu de morceau
ouais,
de musique.
On passe un peu de son. On va écouter Professeur Click avec Crystals sur Radio Campus 106,6. Vous écoutez l'écho des gneux.
Thank you.
C'était Professeur Click avec Crystals de retour dans l'écho des Gnous, Radio Campus 106,6. Aujourd'hui, on parlait de hacking. On parlait avant la pause de culture libre. On va enchaîner sur le sujet avec Thomas et nos invités.
Ça, c'est de la transition, c'est pas vrai. Ouais, on se dit que justement on pouvait peut-être dire des heures sur le sujet aussi, surtout qu'on est en très bonne compagnie, donc ça va pas être, voilà, ça pourrait durer des heures. On va essayer de faire simple. Effectivement, on parlait de culture libre, etc. Il y a des machines. Les machines s'endorment.
Il y a Dark Vador qui vient d'entrer dans la pièce là.
Les machines parlent toutes seules. Ouais. Si ça c'est pas du hack réussi. On parlait du MIT où tout a commencé au niveau historique. C'est aussi en bonne partie grâce au MIT que le premier réseau inter-université quasi public a vu le jour, et donc qui a donné, comme tout le monde le sait maintenant, les bases d'Internet et du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça fait un peu mal quand on voit des utilisations qui en sont faites, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, et au travers de ces réseaux, c'est par ces communautés-là aussi, c'est par ces médiums-là que les hackers arrivent à échanger justement toute leur réussite, leurs questions, à échanger des questions, à se rencontrer, on va dire, virtuellement à travers toute la planète. Et donc de pouvoir échanger et leur point de vue et leur culture, leur trouvaille ou les plans qu'ils trouvent. Voilà, si on imagine nos amis de Toys R Us qui disent ah, j'ai récupéré le Casio CTK 510 que j'ai sous les yeux, et en fait si tu mets des fils entre là et là, entre là et là et entre là et là, tu peux mettre des potards, tu peux mettre des boutons et tout, et ça fait un son de malade et tout. Et le gars qui va dire derrière, ah, tu rajoutes,
tu peux chatouiller le petit batteur qu'il y a dans la machine, en fait. On écoutera tout à l'heure.
Voilà, tu peux chatouiller le batteur dans la machine.
Le mode chatouille.
C'est bon ça. Donc voilà, il y a un échange complet qui se fait de données, parce que un des motivations aussi du hacker, c'est que l'information soit libre, en fait. C'est-à-dire de pouvoir avoir une information libre, que ce soit un schéma électronique, que ce soit un programme informatique, que ce soit. Voilà, des fabrications de composants ou même après, par extension, des expressions ou la liberté d'expression. Le but du hacker, un des leitmotifs, c'est que la culture soit libre et que l'information, en tout cas, soit libre avant la culture même.
Parce qu'en fait, c'est pour rebondir par rapport à la notion de partage. Si on prend le MIT, après, quand ils ont commencé vraiment à coder, ils s'échangeaient énormément leur code source pour améliorer. Par exemple, on a peut-être entendu de Space Wars, qui est un des premiers jeux vidéo. Donc du coup, en fait, Space Wars a été énormément modifié, parce qu'on laissait les codes sources dans les tiroirs. Internet, en fait, on parlait des bricoleurs. Les bricoleurs ont toujours partagé leurs trucs et astuces, mais ils partageaient au niveau, on va dire, local, très local, leurs fils ou leurs amis, etc. Et à un moment donné, en fait, avec l'arrivée du réseau et des interconnexions et Internet en particulier, qui a été en fait en plus créé dans une époque des hippies, il faut aussi le remettre dans le contexte de cette culture-là, a énormément profité à l'échange d'informations. Et l'échange d'informations permet d'acquérir justement les compétences. Et c'est pour ça aussi que l'information doit être libre, parce que si elle est libre, on peut acquérir les connaissances et partager ces connaissances pour faire augmenter les compétences de tout le monde. Et en fait, améliorer aussi les produits sur lesquels on travaille.
Voilà, alors que les industries s'en foutent.
En fait, c'est le contraire. Les industries veulent privatiser les connaissances pour pouvoir les vendre.
Voilà. C'est pour ça que les hackers se sont fixés, on va dire, quelque part, des lignes de conduite avec une certaine norme de principe. Il n'y a rien d'implicite. Tout est implicite chez les hackers, on va dire. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de d'association, il n'y a pas de machin. En gros, je veux dire, comme on dit Warhol, n'importe qui se revendique hacker est hacker. Voilà, c'est à condition de
respecter certains principes.
À condition de respecter certains principes, et je pense qu'en les respectant, il se dit qu'il devient hacker et le lycée de Versailles, comme on dit.
En fait, il met en pratique un comportement, c'est son comportement qui va être considéré comme ça. En général, il y a très peu de gens qui vont lever le doigt en disant « je suis un hacker », parce que en général, c'est plutôt une reconnaissance par les autres. Voilà, et ça dépend aussi du niveau des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend quelqu'un qui ne connaît rien en informatique, il va voir quelqu'un qui s'y connaît, il va le traiter de tous les noms comme magicien, comme geek ou des choses comme ça, mais finalement, ça dénote un certain comportement vis-à-vis de la technologie. Et ces pratiques, justement, vont déboucher sur une éthique. C'est-à-dire que pratiquer le partage, pratiquer la décentralisation, la non-hiérarchie ou l'accès aux connaissances, ça va en fait transformer aussi la manière d'aborder les choses. Et là, on arrive sur une éthique. Tu en as parlé avec la liberté de l'information. Globalement, c'est aussi la liberté tout court dans les usages et aussi dans le contrôle du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup parler hacking par rapport au fait que les industries vont vouloir restreindre les usages possibles, alors que le hacker, lui, veut démultiplier les usages. Donc il faut qu'il sache comment ça marche, et c'est pas non plus compatible avec certains modes industriels.
Voilà, il suffit de prendre toutes les expériences bêtes de pirates. Une affaire, j'ai pas le nom sous les yeux, mais il y a un des hackers qui s'était amusé sans le faire exprès alors c'était quel site, j'ai plus son nom, et qui s'est pris plein de 41 mois de prison. Je retrouve le lien tout de suite. Tac.
Ouais, donc là, en fait, aussi, ce qu'on peut dire, je meuble. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en général, on va dire, il y a beaucoup de dénominations, mais on entend aussi l'aspect cracker. En fait, par exemple, dans la communauté du libre, on va dire hacker et cracker. Hacker, c'est positif. Cracker, c'est plutôt négatif. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de s'infiltrer, de détruire. Là, j'essaye de tirer un gros trait, mais
c'est le cracker dans le sens popularisé par les médias.
Exactement.
Tort hacker, justement.
Voilà, parce que dans les années 80, avec l'avènement de la micro-informatique, il y a eu énormément de gens qui ont été touchés par la technologie, alors qu'au MIT, c'était quand même très réservé à des gens bien particuliers, aux universités. Quand c'est arrivé dans la micro-informatique, tout le monde a pu avoir un Commodore 64, un Atari ST, un Amiga, etc. Donc tout le monde a pu s'adonner aux basiques, à l'assembleur, à la démo, à créer ses propres choses avec un ordinateur. Et donc, du coup, les adolescents ont commencé aussi à s'intéresser au réseau, au BBS, au modem, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, comme dans le monde normal, il y a des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés. Et ce que les médias véhiculent, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Et c'est toujours, en fait, les mauvaises choses. Mais les hackers, vous les connaissez. Ils ont en fait aussi fondé les plus grosses entreprises qui aujourd'hui combattent le hacking. Les plus grosses multinationales ont aussi commencé par les hackers. On va parler de Bill Gates, on peut parler de Steve Wozniak, Steve Jobs. On peut parler des fondateurs de Google, du fondateur de Facebook, qui sont en fait à la base des gens qui avaient ces techniques-là, qui ont même fait des choses
pas top
au départ, comme par exemple pouvoir appeler gratuitement sur le réseau téléphonique américain. Là, je pense à Steve Jobs, par exemple, ou Steve Wozniak, et qui maintenant sont à la tête des entreprises qui sont les plus reconnues, les plus rentables.
Et les plus contre ce système-là.
Voilà, mais ils ont commencé. Voilà.
C'est assez paradoxal, justement, de partir de gens qui ont l'esprit hacker à la base, qui aujourd'hui dirigent des sociétés les plus privatives en termes de logiciels, en termes de culture.
Ils savent justement ce qui est possible de faire, du coup, ouais. Ils savent où taper quand ça fait mal. Quoi.
Et si on reprend les premiers matériels sortis par exemple par Apple, si on repense à l'Apple 1, l'Apple 2, ça a été en fait vraiment des machines spectaculaires pour les hackers, parce que justement tout était livré avec, les plans, etc. On pouvait vraiment modifier. Il y a énormément de gens qui ont des souvenirs énormes là-dessus. Et maintenant, leurs produits sont vraiment des anti-Apple 2.
Ouais, tout est fermé. Ouais.
Au bon sens physique du terme.
Au sens physique,
plus la peine, on ne peut même plus ouvrir leur machine.
Donc, oui, mais ils sont milliardaires.
Oui, voilà, non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un basculement, comme tu le dis, on va basculer en fait d'un autre côté, parce qu'il y a deux moyens d'utiliser la technologie. Il y a la technologie pour libérer les choses, libérer les usages et les énergies, on va dire, et la créativité, et de l'autre côté, les énergies au niveau du contrôle, on voit bien, parce qu'ils ont fondé aussi les gros services que tout le monde utilise. Et bon, là, en ce moment, l'actualité rattrape un peu les gros services comme Google, Yahoo, ouais, etc. Et donc, on voit bien que ça, c'est pas du tout compatible avec l'éthique dont on parlait, qui est une éthique qui se base autour du partage, de la liberté, la liberté de l'information, de pouvoir pratiquer, de décentraliser, et je dirais aussi, surtout, la reconnaissance, comme on en parlait tout à l'heure, elle est faite par rapport à ce que vous faites,
et pas par rapport à ce,
et
que,
pas par rapport à ce que vous êtes.
Voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'âge, il n'y a pas de... Vous êtes noir, vous êtes juif, vous êtes arabe, vous êtes jeune, vous êtes vieux, on s'en fout, déjà sur Internet, ça ne se voit pas, donc...
Il y a une ambivalence entre le discours et les actes, entre guillemets, parce que si on parle de Facebook aujourd'hui, leur but c'est de rapprocher les gens, de mettre l'information au niveau de tout le monde, de la diffuser au plus grand nombre, justement de faciliter de rapprocher les gens. On l'a vu avec l'affaire Prism, que on était très loin de finalement de cet esprit-là.
Oui, c'est complètement même le contraire, et c'est en fait ça montre justement la dérive qui est combattue par pas mal. Alors en effet, il n'y a pas d'organisation au sens strict et hiérarchie. Par contre, vous allez retrouver des regroupements qu'on connaît aussi pas mal. Donc on voit aussi dans les associations autour des logiciels libres, on voit dans les associations de défense citoyenne des libertés numériques. Bon, par exemple la Quadrature du Net, l'April, etc. Bon, il y a énormément de, mais c'est pas en fait non plus le fonctionnement intérieur reprend aussi l'éthique qu'on peut retrouver dans la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, en général, les décisions sont prises sous forme de consensus. On va arriver sur voilà, des méthodes de développement qui vont être celui qui pense à une idée, il le fait. Voilà, puis à partir de là, les outils qui sont mis à disposition sont améliorés par les autres ou pas, et après diffusés pour que les autres puissent les critiquer et aussi les améliorer. Bon, en fait, il y a un terme aussi que vous pouvez rechercher qui est, on va dire, la doocratie. Hein, c'est juste fais-le, en fait.
Voilà. C'est tous les mouvements qu'on va trouver après, les mouvements DIY, maker, etc.
Do it yourself. Ouais.
Do it yourself, c'est ça, c'est do it yourself, mais quand même avec, mais pas tout seul. Donc il y a cette notion de partage qui est là cette notion de communauté qui est vachement importante.
Fais-le toi-même, mais avec les autres.
Voilà.
C'est un peu ça. Voilà. Mais c'était trop long, en fait, dans le.
Thierry, si tu nous entends.
Ouais.
Ouais, donc en fait, du coup, on arrive. Il y a eu énormément, si on prend les grandes périodes, il y a eu l'arrivée de la micro-informatique qui a été un boom et qui a créé énormément, on va dire, le choc. Internet qui s'est, en fait, à ses débuts, qui a participé au partage de l'information. Et maintenant, en fait, l'Internet, comme tu disais, Sébastien, qui se retourne un peu contre cet esprit-là avec la volonté de certains, justement, de créer des centres. Alors que, en fait, l'Internet, on va dire, l'interconnexion des réseaux, va se retrouver complètement accentré, sans centre. Et le but de Google, Facebook, etc., qui est un but, on va dire, de contrôle des usages, est énormément en volonté de centraliser pour qu'en fait, on reste dans le giron de Google. Et là, on retrouve un usage très très hiérarchique,
qui est aussi contradictoire, voilà, par rapport contradictoire.
Donc là,
philosophie.
On est arrivé avec Prism, etc., un basculement entre soit on arrive à continuer de préserver les libertés numériques, la liberté, on va dire, du hack en général, ou pas.
En attendant de... On vous laisse méditer là-dessus.
Ouais.
On va demander à Toyser Noise de démontrer. Ils ont plein de machines. Alors,
ouais, de nous faire une petite démo avec les quelques.
Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il y aura le son.
Ouais.
Alors ça va être du hack aussi, de studio, de campus.
Ouais.
Je préviens les animateurs et le responsable de campus que nous n'allons pas péter le matériel. Donc voilà, donc là, un espèce de jouet, ça s'appelle Joujoumo.
Ouais, jouet pour enfants, ouais.
Voilà, vous pouvez commenter ou pas d'ailleurs vos machines.
Allez-y, l'antenne est à vous.
Je sais pas si on entend. Ah, donc, ça, c'est un jeu. Il y a plein de boutons qui sortent de là. On se doute bien que c'est pas le son normal de ces machines. Ce serait vachement mieux qu'à Noël, on ait ça au sapin de Noël plutôt que.
C'est parti.
Ah, des fois.
Les jeux des piles. Il y a un Teletubbies qui nous a parlé là.
Je pense que jamais on a passé un truc pareil sur Campus.
Ouais.
C'était quel nom le morceau?
Il faut le baptiser là tout de suite maintenant, dans l'instant.
Parce qu'il est enregistré maintenant pour la pérennité.
C'était un live.
63QR6.
Ok, c'était 63QR6 de Toys R Noise, Radio Campus en 6,6. Vous écoutez les codes nous.
Voilà. Voilà, je sais pas si vous pouvez prendre avec quoi vous avez fait ça. Vite fait un tour de. Je sais pas si on a passé les instruments encore.
C'est des jouets. C'est que des jouets qui sont bendés, c'est-à-dire qu'on les a ouverts et puis on a fait des courts-circuits à l'intérieur jusqu'à ce que ça fasse des sons qui nous plaisent. Et une fois qu'on a trouvé ça, donc c'est vraiment totalement au hasard ce qu'on fait. Et ça influe sur le son. Puis après, on va se dire, oh bah tiens, ça c'est marrant, on a qu'à mettre un potard. Et un potard, c'est un bouton qu'on tourne. Et ça varie la tension qui passe d'un point à l'autre du circuit électronique. Et ça module complètement le son. Parce que le son, il va passer plus ou moins dans une partie du composant électronique par où il n'était pas censé du tout vous passer. Et ça fait un peu n'importe quoi jusqu'à le faire bugger totalement. Donc il y a des jouets. Des jouets qui c'est que des jouets pour enfants quasi, sauf ce Casio CTK510 Expert Logic Accompagnement, qui lui a un clavier professionnel, on va dire.
Pourquoi ça ressemble à un instrument?
Voilà, mais c'est un peu la même chose, hein, c'est des circuits électroniques qui génèrent du son. Et en fait, l'idée du bending, c'est vraiment de faire aller le courant un peu n'importe où, au hasard. C'est détourner le jouet. Ouais,
to bend, ça peut vouloir dire tordre ou
tordre,
ouais. Ou dans le sens détourner aussi.
Mais est-ce que j'ai jamais tombé sur des fonctionnalités cachées, on va dire, d'un jouet, je sais pas, un truc qui était pas prévu pour, mais en fait qui était dedans mais caché, en fait, je sais pas, des langues, des trucs.
Ça arrivait une fois sur un jouet qu'on tombe sur l'anglais.
Ah oui,
j'ai exact, plus il parlait en français et en fait on avait trouvé la fonction onglet.
D'accord.
Ouais.
Ok, ouais. Donc,
ce qui est intéressant aussi, c'est justement là on peut revoir une pratique qui n'est pas forcément flagrante, qu'on retrouve aussi dans la musique. C'est-à-dire dans la musique, si on reste purement sur le numérique, parce que là on est sur le hardware, on va retrouver ce qu'on appelle le sampling. Donc finalement, sampler des sons, c'est récupérer des sons, les modifier. On va prendre une musique qui n'a rien à voir et à la fin en faire une musique électronique. Reprendre, on a peut-être entendu parler, on en a entendu ici Radio Campus de la chiptunes. Donc la chiptunes aussi se base sur des processeurs audio, des vieilles consoles ou des micro-ordinateurs, et on refait des morceaux à partir de là, mais en leur faisant aussi faire des sons qui n'étaient pas prévus à l'origine. Donc là, c'est une sorte aussi de sampling hardware,
on va dire. On utilise des vieilles consoles de jeux, des choses comme... Je ne peux plus s'arrêter, c'est une catastrophe. Vous présenter Choupa Pimento, juste après. Teletubbies.
Ouais, Teletubbies
l'espace.
Ouais. De l'espace. On vient de nous dire que on nous dit qu'il y a des kernels paniques dans vos jouets des fois, point d'interrogation.
Des kernels paniques. En fait,
les blackouts. Parfois, on est obligé de rebooter les jouets en fait.
D'accord.
Ça arrive parce que, enfin, parfois, ils sont vraiment dans les dernières tranches.
Ils deviennent bleus.
Ouais, ils commencent à chauffer un peu tout, et ils réagissent plus du tout et on est obligé vraiment de le rebooter, c'est-à-dire enlever les piles et remettre les piles.
Donc voilà, donc Robert F, tu as ta réponse, il y a des kernels paniques dans les jouets.
On arrive à faire des interfaces qui marchent bien. Celui-là, le Teletubbies, c'est un ancien, j'arrive à m'en servir à chaque fois. Je sais quand je veux tel son, j'arrive à le faire. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus pagailles, comme le son du synthé. On a vu qu'il
il est complètement.
C'est presque complètement instinctif, complètement empirique. Sait que ça fait des modifications, mais on est tout le temps surpris. Et il y a des fonctions.
Ses propres choix. Et...
On a trouvé une fonction boucle, en fait. Donc, on arrive à trouver hacker la fonction de la boucle à l'intérieur. Mais en même temps, ça mélange des sons de la batterie, des sons de tel synthé. Enfin, il y a 99 sons, on va dire, et du coup, ça les prend au hasard. Donc, en fait, selon là où on appuie sur le clavier, on déclenche
un random.
Des choses. Il y a autant de possibilités que de moments d'utilisation.
C'est quand même assez dur de lui faire reproduire la même chose, quand même, à lui.
Ouais, mais
ils ont des caractères, en fait. Ça donne un caractère en machine, plus que. Donc, il est unique. Et là, les gamins, ils passent plus qu'une semaine avec ça. Quoi.
Voilà, c'est ça, en fait. Là, c'est à vie, en fait. Et du coup, là, on l'a ouvert trois fois. On a mis trois boutons.
D'accord.
En fait, mais ce modèle-là, il pourrait y avoir une boîte à côté, une autre interface avec. On va faire un synthé modulaire quasiment, en fait, dans l'idée, quoi.
D'accord.
Ouais.
C'est. Donc créer. Il faut créer.
Ouais, donc en fait, justement, ça rejoint. Il y a énormément d'activités aussi maintenant autour du hardware qui a commencé aussi, historiquement, qui existe depuis tout le temps. Mais il y a eu aussi un grand mouvement dans les années fin 90-2000 qu'on appelle les makers, qui en fait sont. Parce que MIT, après avec la culture des logiciels libres, on était plus sur les logiciels, mais là qui sont vraiment centrés sur le hardware. Après il y a aussi le open hardware, enfin tous ces mouvements là qui sont aussi des mouvements qui sont à la base des mouvements pour favoriser le hacking de matériel et de créer des nouveaux supports. Et comme tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément on va dire de groupe entre guillemets, il y a des communautés. Ces communautés se sont agrégées sous forme de personnes qui voulaient faire la même chose, donc il leur fallait des lieux. Et ils ont créé aussi maintenant ce que vous pouvez trouver sous le nom au départ de Hackerspace, qui en fait eux sont aussi plus retournés technologie au départ informatique, mais aussi ce qu'on appelle les Fab Labs, qui sont des laboratoires d'expérimentation. On en parle beaucoup même au niveau du gouvernement maintenant, donc vous voyez comme quoi ça aussi est en train de se retourner, où on va procéder à l'innovation, pouvoir créer des nouvelles choses, et donc ça intéresse aussi les industries. Et on favorise en ce moment, même en France, on va dire, l'avènement des Fab Labs, où les gens sont à disposition dans un lieu avec énormément de techniques, technologies, de matériel. Ils viennent avec des projets, les autres les aident sur les projets. Bien sûr, il y a les scie sauteuses, des choses comme ça. Donc en fait, on reste vraiment dans le bricolage, hein, des choses qu'on retrouve tous les jours, mais sauf qu'il faut un gros garage et beaucoup d'argent. Là, en fait, on va mettre en communauté plein d'appareils et venir simplement avec ses idées, et on trouvera toujours quelqu'un pour pouvoir nous aider, quoi.
Ouais, c'est ce qui s'est vu il y a 15 jours à Saint-Sauveur, à l'Open Bidouille Camp.
Par
il y avait je sais pas combien de gens en train de montrer des trucs parfois improbables quand même dans la bidouille.
Éphémère.
Et éphémère, voilà, ça allait de bidouiller. Voilà, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, là, tout le monde était autour de chaque atelier ou de chaque stand, tout le monde était agglutiné autour.
Des enfants
des enfants de 7 ans, de 90 ans, etc. Parce que là, tout le monde était comme des gosses à se dire, mais comment ça marche, est-ce que je peux, machin et tout. Et tout le monde est reparti avec les recettes, les comment faire, les modes d'emploi, les ceci, des numéros de téléphone, des emails pour pouvoir dire, voilà. On y va, il y a toute cette communauté de makers qui explose partout, qui n'est pas forcément fédérée très clairement, comme tu dis, effectivement, il y a des groupes, il y a des lieux qui sont un peu plus
et des pratiques,
distincts, hein, mais voilà. Mais après, comme il n'y a rien de...
On a connu ça aussi avec les, ce qu'on appelait, qu'on appelle toujours, parce qu'il y en a des clubs d'informatique, on va dire. Des, voilà, c'était un peu officiel, c'était quelque part où il y avait plein d'ordinateurs, où ça coûtait très cher, mais on pouvait toucher le clavier quand on était petit. Mais donc là, du coup, comme maintenant tout le monde a un ordinateur, tout le monde a Internet, les communautés se forment virtuellement, mais pour les communautés de makers, il faut du matériel. Il y a l'aspect physique maintenant qui est très important, donc du coup, il leur faut bien des lieux pour pouvoir se réunir et travailler ensemble.
Voilà, parce que effectivement, c'est le il y a beaucoup de gens qui bidouillent dans leur coin, toujours dans leur garage, etc. Mais quand on, puis voilà, plus les gens avancent dans la bidouille et dans leur projet, plus ça devient perfectionné, etc. Donc les gens, ils commencent avec, comme tu dis, avec une scie sauteuse chez eux, puis ils disent,
Ils vont l'utiliser deux fois.
Bon, c'est bien, la scie sauteuse, ça marche, mais j'aimerais bien une machine à commande numérique. Et du coup, ça, chacun a pas ça chez soi, ou j'aimerais bien tel type de matériel. Du coup, les gens sont obligés de se fédérer.
Voilà, donc ça, c'est les choses qui durent un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, on parlait là, qui est, par rapport à la décentralisation, ou l'égalité qui existe parmi les membres. Bon, par exemple, si vous fréquentez un hackerspace, vous allez voir que tout de suite, on va vous ouvrir la porte, ça va pas être... Voilà, le droit d'entrée, rentrer au club, etc. Des trucs qui sont quand même très verrouillés. Là, au contraire, c'est très ouvert. Vous pouvez venir. Du moment que vous avez un projet et que vous avez la volonté de le faire, en général, vous êtes le bienvenu. Et ça va même aider les autres à comprendre ce que vous voulez et à leur donner des nouvelles idées. Voilà. Donc c'est ça, en fait, vraiment la base. On rejoint en boucle avec le MIT, etc. C'est vraiment dans cet esprit-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est... là, je fais une aparté, dommage, mais c'est on a parlé des enfants. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez un enfant jouer au Lego, quand vous le regardez avec ses jouets, ses pratiques, etc., il a aussi cette notion-là de passionné, les yeux qui brillent, de savoir comment ça marche. Quand tout à l'heure on voyait les jouets, il y a beaucoup aussi d'enfants qui pratiquent, finalement qui sont très intéressés, qui tirent leurs parents vers les stands à l'Open Bidouille Camp pour voir comment ça marche. Donc on garde quelque part un peu cet esprit d'enfant, de découverte, et de savoir comment ça marche, et de balayer toutes les questions, les pourquoi, puis les comment, pourquoi, plaisir, comment, ouais. Pourquoi, comment. Et après, j'ai l'impression que quand on grandit, on perd un peu cet esprit, qui est un esprit hyper important dans le domaine du hacking, voilà, dans, on va dire la bidouille, hein, si on va reprendre le terme aussi
Même dans la vie de tous les jours, quand on se rend compte que sa télécommande ne marche plus,
on la jette pour la casser, pour
un d'abord on la jette par terre dans un premier temps,
donc du coup elle est ouverte.
Elle est ouverte, mais explosée, et du coup on jette la télécommande, mais sans la télécommande, la télé ne marche plus, du coup on jette la télé, alors que il y a juste le petit bout de fil qui va tenir les piles qui est pété, c'est tout, et donc pour une soudure qui coûte zéro à fabriquer ou à faire, ça prend 5 minutes, même pas, vous économisez 1000 euros de télé ou je ne sais quoi, donc des fois voilà, ça permet aussi
Et il y a aussi le grand aspect de dans les Fab Lab Hackerspace, c'est l'aspect réparation. Et l'aspect réparation, c'est justement éviter de changer, de réacheter un produit.
Je propose qu'on continue en fait avec un petit morceau d'un autre hacker. En fait, j'ai nommé Richard Stallman avec la Free Software Song.
Yeah.
Uber hacker.
Uber hacker. Qui va fêter la sortie de Earth bientôt.
Enregistré en 2011.
Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true, hackers, that is true, but they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free.
Oh, c'est beau.
Écrit et interprété par Richard Stallman.
On pleure à chaque fois. Ouais. On est debout, la main sur le cœur.
Reviens. C'était enregistré à la conférence qu'avait donné Richard Stallman à Lille le 23 février 2011 à Sciences Po. Et il avait fait l'honneur de sa présence.
Yeah.
Sur Radio Campus.
Voilà, on va essayer de conclure vite fait. Qu'est-ce qu'un hacker en vrai?
Passionné.
Voilà, un passionné.
Un créatif.
Qui...
Un bidouilleur.
Donc un mec gentil à la base. C'est un gentil à la base.
Mais qui se laisse pas faire par les multinationales et les pouvoirs en place qui essayent de contrôler l'esprit des gens et la créativité des gens.
Yeah. Donc un activiste quand même, un petit peu.
Oui, oui.
Autonomie, on va dire. Oui. Qui cherche l'autonomie dans ses usages.
D'accord. La liberté, l'autonomie. C'est un hippie des temps modernes, en fait.
C'est un hippie. Ouais.
Les hackers sont des hippies. Fleurby qui est d'accord, Fleurby.
Voilà, un hippie de plus.
Mm. C'était la dernière de la saison.
Ouais. On va prendre quelques petites vacances, nous.
Ouais, un petit peu quand même, histoire de se remettre de toutes nos émotions de l'année. On va attaquer la quatrième saison l'année prochaine.
Ouais, en septembre.
Avec la même équipe, hein, je pense. Je pense quand même. François, tu reviens.
Oui,
j'ai eu peur à faire. Oh non. Sébastien, toujours.
Tu reviens, toujours au poste.
Moi aussi, donc c'est bon. François, il est invité, mais il pourra venir quand il veut. Tazerneuse peut venir faire la bande-son. Peut-être pas tous les jours, mais il peut venir faire la bande-son, il n'y a pas de souci.
On peut faire un petit appel, une voix féminine.
Dans le public, il y a une voix féminine. Est-ce qu'il y a une voix féminine dans le public? Peut-être. Faut travailler. Ah ouais, peut-être à la rentrée.
Ça peut se négocier.
Une voix féminine, ou deux, peut-être. On verra. Niveau agenda, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Il y a les Remeuleleux,
rencontre mondiale du logiciel libre à Bruxelles en ce moment, gros événement, c'est à une heure de Lille à tout casser.
Voilà.
Allez-y, c'est à l'université libre de Bruxelles, c'est toujours là.
Oui.
Ouais.
Il y a des événements dans le centre aussi et tout. Vous cherchez rmll.org et vous allez tomber dessus. Vous allez retomber sur des gens qu'on connaît là-bas aussi. Qui devait venir en duplex aujourd'hui, mais qui ont eu des problèmes techniques.
C'est depuis hier jusque jeudi, je crois.
Jusque jeudi.
Ouais.
Pour l'activité de Chtinux, vacances aussi, donc regardez le site. L'année prochaine, par contre, plein de changements dans la vie de Chtinux de tous les jours. Donc, on vous dira tout ça à la rentrée. Faut qu'on définisse encore deux, trois trucs, mais on est assez d'accord pour tout changer. Rien sur la radio, par contre.
On ne change rien sur la radio. On reste sur le même format, deux émissions.
On a demandé le même créneau. On devrait avoir le même créneau. On touche du Fleurby. Merde. On touche du Fleurby.
Fleurby casqué.
Voilà. Pas le réveiller. Ça devrait pas changer. Voilà.
La phase B qui repart, qui va partir pour la deuxième saison.
Face B pour la deuxième saison, ouais. Face A pour la quatrième saison.
Quatrième, ouais.
Truc de fou, quoi. On est des ouf chez Chtinux. Fleurby qui s'en va, qui fait des coucous. On a été très contents de faire cette première saison de phase B avec les invités qu'on a eus. On n'en a pas eu autant qu'on voudrait, mais on essaiera de remédier à ça, peut-être.
Ouais, pour l'année prochaine.
Tu peux faire une annonce? Tu peux faire une annonce?
Vas-y.
Il y a les apéros bidouilles qui reprennent.
Ah oui.
Voilà, la rentrée. Et donc, ça sera, je me rappelle plus la date, mais fin octobre, quelque chose comme ça. Et c'est l'occasion pour des bidouilleurs de montrer leur bidouille. C'est une occasion de se montrer.
Ça se fera donc
à Hybride, donc fin octobre. Je me souviens plus la date, mais il faut regarder sur le site.
Il y a des affiches papier aussi, il y a des appels à projets, appels à participation en fait en papier qui circulent dans les lieux.
Donc, c'est à bidouille en général, donc hacker. Enfin, voilà, si vous êtes hacker, bidouilleur et que vous avez des trucs à montrer qui servent pas forcément à grand chose, qui sont
pas forcément un outil,
parce qu'on peut le faire
pas encore,
c'est juste dire là on l'a fait, voilà.
Ouais, voilà,
je sais pas à quoi ça sert, mais
ceux qui viennent, ils auront de la bière,
voilà,
avec modération,
avec
évidemment
modération.
Avec modération.
Par contre, le bidouille, vous pouvez y aller à fond.
Ouais,
ça c'est, ouais, est-ce que c'est des moments complètement barrés? Je pense que c'est juste le premier endroit où je vous ai vu, c'était là-bas. Et il y avait des animaux, des peluches qui étaient maltraités,
des machines à l'arsène.
Des machines à l'arsène, ouais, aussi. Des concours de l'arsène.
Plusieurs.
Voilà, il y avait des concours de l'arsène.
Elle a beaucoup aimé.
Des bouffes Flurby qui réagissent.
Flurby comme ça, hein, tout seul. On est en live.
Il y a un détecteur de présence dessus, en fait.
Elle comprend ce qu'on lui dit.
Il y a un micro et tout, mais ça marche plus très bien.
Mais c'est ça, c'est à force d'être complètement bidouillé, ils réagissent complètement bizarrement.
C'est de l'intelligence artificielle à la fin. C'est,
je sais pas si c'est de l'intelligence,
c'est super artificiel.
Là, par exemple, il veut plus.
Voilà.
Ils ont un caractère, du coup, ça, c'est de... C'est du n'importe quoi, mais du coup, ça fait quelque chose. C'est ça qui est assez rigolo. C'est des nouveautés.
Ouais.
Donc on reviendra l'année prochaine avec donc, des invités, machin, etc.
Bon, on était ravis de...
Ouais, c'était super. C'était la face... voilà, peut-être un peu plus d'interaction que la face A aussi, on verra.
Ouais.
Parce que voilà, ça n'est pas complètement hermétiquement fermé. Si vous vous sentez l'âme d'un animateur ou quoi d'autre, vous êtes une voix féminine en concurrence avec l'autre voix féminine, des bruits qui arrivent, des Larsen qui arrivent... Non, c'est bon, ouais. Si vous avez des envies de passer à la radio, des envies de raconter des choses sur le logiciel libre, l'informatique libre ou les libertés numériques, n'hésitez pas à envoyer des mails à info@chtenux.org ou des réclamations. C'est n'importe quoi. C'est
même quand on lui demande d'arrêter, il ne veut plus.
Il est temps qu'on arrête.
On était ravis de faire cette année. Et puis on vous remercie, vous les auditeurs, de nous suivre tous les dimanches, puisque c'est face à face B, les Codegnous. Donc c'est voilà, tous les dimanches. D'ailleurs, Pierre et Alexandre reviennent la semaine prochaine. Je crois qu'eux, ils assurent un petit peu d'émission durant l'été.
Pierre ne veut pas lâcher le micro.
Voilà. Donc Pierre et Alexandre vont continuer encore pendant quelques émissions. Nous, on va se retrouver quand? On va se retrouver fin ou début septembre.
Je pense que c'est début septembre. Il faut qu'on voit avec l'autre partie.
Ouais. On va voir l'agenda. Ce sera vraisemblablement début septembre.
Et puis voilà.
Et puis voilà pour une deuxième saison. Avec toujours autant de fun et toujours d'esprit libre et de culture libre sur Radio Campus 106,6.
Yes. Donc profitez bien.
Passez un bon été.
Ouais.
On va juste remercier nos invités d'aujourd'hui, Toys R Noise, de nous avoir accompagnés durant cette émission.
Et François.
Merci, bonne soirée.
Qui est venu avec un truc vachement plus préparé que nous.
Voilà.
Voilà. Et Toys R Noise termine.
Voilà, on se quitte sur
musique.
Ce petit son.
Voilà.
Allez.
Bonnes vacances.
Bon été à tous.
Et tout de suite, Chupa Pimento sur Radio Campus
106,6. Allez, ciao, bye bye.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle.